Je propose que l'on retrouve tout de suite donc Michel Rousseau, Pierre-Alain Mannoni et Cédric Héroux, donc enregistrés hier matin donc lors de la conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux du GISTI et organisée par le GISTI et la CIMAD pour le lancement des états généraux des migrations.
Nous, à Briançon, donc je représente l'association Tous Migrants. Je vais vous parler donc de la situation là-bas. On en est, nous, à appeler à la désobéissance les fonctionnaires pour pouvoir freiner la chasse à l'homme qui est organisée en montagne, qui fait un peu écho aussi à ce qui a été décrit tout à l'heure sur les trottoirs de Paris, comme ça s'est vu aussi à Calais, avec ces atteintes vraiment insupportables à la mise en danger de la vie des migrants qui tentent de passer la frontière. Le Briançonnais depuis un an est devenu, même si ça a toujours été une zone de passage, mais qui était très sporadique depuis tous les temps, c'est devenu depuis un an un lieu de passage important, avec une fréquence qui s'est accélérée entre le 1er juillet, pour donner des chiffres très précis, et le 10 novembre, nous avons accueilli 1696 personnes qui ont dormi au moins une nuit dans les structures d'accueil d'urgence qu'on a réussi à mettre en place avec, il faut le souligner, la complicité de la mairie et maintenant de la Comcom du Briançonnais. C'est très important parce qu'il y a très peu d'endroits en France. On a énormément de difficultés à obtenir le soutien des collectivités locales et il se trouve que dans le Briançonnais, pour l'instant, nous avons ce soutien. Il s'étend un peu puisqu'on y est passé du soutien de la mairie de Briançon à la Comcom du Briançonnais. Et c'est vital pour nous dans les jours qui viennent d'arriver à convaincre d'autres élus, d'autres communes pour multiplier des petites structures d'accueil à taille humaine. Parce qu'on refuse absolument des grosses tailles, parce qu'on perd le sens de notre travail bénévole. Les syndicalistes savent de quoi je parle, les journalistes aussi. Donc c'est insupportable de gérer du nombre. C'est vraiment, donc on ne veut surtout pas ça. Donc on veut multiplier les petits lieux d'accueil qui s'appuient à la fois sur les ressources des collectivités locales, l'énergie des citoyens, les savoir-faire des associations locales, mais aussi, et on commence depuis quelques mois à fonctionner, suite à un SOS qu'on a lancé au niveau national, avec l'appui des grandes ONG qui nous apportent leur savoir-faire, leurs conseils, notamment au plan juridique. Mais là, on veut aller beaucoup plus loin, on a vraiment besoin d'eux pour justement favoriser l'adhésion des élus frileux face à toutes les peurs idiotes qui sont, enfin nous qu'on considère complètement idiotes, puisque chez nous, au niveau de plus il y a de migrants, les gens votent correctement, et plus il y a de bénévoles, et plus les flics frappent, et plus il y a de bénévoles aussi. Donc on peut, quand je dis plus les flics frappent, attention, il faut... Je veux pas le mettre, on ne met pas tout le monde dans le même sac. Si on a des migrants à Briançon, c'est parce qu'il y a une complicité objective de gendarmes et de policiers qui font comme s'ils n'avaient pas vu, voire qui aident. Donc ça, on veut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pour ça qu'on appelle à la désobéissance les fonctionnaires de police, les fonctionnaires des conseils départementaux, qui sont parfois complices de pratiques innommables en matière d'évaluation des mineurs. On a aussi ce gros problème-là, comme un peu partout. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de la mobilisation de tous les citoyens. C'est possible, nous on a 400 bénévoles à l'association et il y a bien plus de... Enfin, il y a un pourcentage significatif de la population qui apporte une aide, un appui aux migrants qui passent. Personne ne reste insensible, à part quelques tarés, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et ces fameux tarés, d'ailleurs, il faut savoir qu'on gratte avec eux. C'est souvent des gens qui ont très mal vécu un exil familial, dont d'ailleurs ils ont une connaissance très imparfaite, donc y compris parmi la police très agressive. Donc voilà pour... juste quand même, encore, on organise un week-end d'action le 16 et le 17 décembre, dans le cadre justement de ce processus d'État généraux, avec des conférences et une manif originale en montagne, avec une caravane de secours, donc en montagne enneigée, tous ceux qui veulent venir y participer pour dénoncer ces chasses à l'homme et montrer que la montagne ne doit pas devenir une nouvelle Méditerranée.
Je vais laisser la parole à deux personnes de la Roya citoyenne, de la vallée de la Roya, pardon, avec Cédric Héroux, Nice. Pierre-Alain de Nice. Manoni de Nice, qui vont continuer à vous dresser ce topo consternant et grave de ce que peuvent vivre des migrants et aussi des aidants aux migrants en France aujourd'hui, en 2017.
Pierre. Bonjour. Moi, je représente entre autres le collectif Solidarité Migrants 06 qui a été créé il y a quelques semaines pour faire face à l'inaction des politiques locales et puis leur non-gestion de la situation donc à la frontière franco-italienne. Ce collectif a comme signataire Attaque France, le RESF, le FSU, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le Syndicat des avocats de France et puis le soutien de Ensemble, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, le NPA, le Parti de gauche. Enfin, tout un tas, entre autres, il y a beaucoup d'autres signataires. On a eu besoin de créer ce collectif pour faire face donc, à la situation. Je représente également, enfin, je suis une personne parmi de nombreuses personnes qui ont été poursuivies et condamnées pour délit de solidarité, puisque j'ai été condamné en appel à 2 mois avec sursis pour avoir recueilli 3 personnes, 3 jeunes érythréennes qui étaient blessées. C'est une situation dans laquelle il n'y avait aucune polémique sur le fait qu'il n'y ait pas de contrepartie, que la situation de santé de ces femmes-là nécessitait une prise en charge. Après une relaxe, on a vu le parquet s'acharner et donc pour poursuivre. Ceci et ces poursuites-là, c'est la partie immergée de l'iceberg, puisque au quotidien, il y a un harcèlement des personnes qui sont sur le terrain, une intimidation par les forces de l'ordre pour limiter, pour essayer d'intimider et empêcher cette solidarité. À la frontière franco-italienne, il y a eu ces derniers mois une intensification du dispositif policier qui fait que le nombre de personnes arrivant à passer la frontière a été beaucoup réduit et donc ils ne sont plus pris en charge ou très peu sont au contact des associations. Par contre, on apprend quand même que le business des passeurs, ce dispositif policier, l'intensification de ce dispositif policier a forcément augmenté le business des passeurs puisqu'on continue à rencontrer des migrants. Donc une fois qu'ils sont passés à Nice, qui nous racontent qu'ils étaient tassés à 35 personnes dans l'arrière d'une camionnette. Il y a des centaines et des centaines de procès de passeurs qui ont eu lieu à Nice. Cette politique, ce qui est édifiant, c'est qu'on voit la même politique qui est menée à la frontière franco-italienne, qui vise à l'invisibilisation de la situation. On veut rendre la situation invisible parce que quand on la voit, quand on sait ce qu'elle est aujourd'hui, elle est glaçante. Pour l'avoir vécue, pour l'avoir vue, En France, sur la Côte d'Azur, cette région prestigieuse, une des régions les plus riches du monde, on en est à 18 morts officiels par voie de presse, mais j'ai appris récemment que la SNCF a découvert un corps qui était dans un local technique depuis plus de 3 jours. Cette information-là nous a été communiquée par des sympathisants de la SNCF, mais ça n'a pas été du tout diffusé. Donc on n'a aucune idée précise officielle du nombre de morts. Il y a les morts et puis forcément aussi il y a les blessés, ça aussi qui apparaissent très peu dans la presse. J'ai pu assister à des scènes de guerre, c'est-à-dire qu'on a dans la montagne, à proximité de la frontière, des militaires, parce qu'il n'y a pas que les policiers, il y a des légionnaires, il y a des soldats de la marine ou de l'infanterie qui se relaient. C'est des gens qui sont formés à la guerre. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui sont en treillis avec des armes de guerre et qui... sortent de la nuit des fourrés pour assaillir des jeunes, des migrants, forcément qui partent en courant, parce que dans leur parcours, vous imaginez que quand il y a un gars qui sort avec une arme de guerre, il faut mieux se barrer le long de leur parcours, c'est ce qui s'est passé. J'aimerais aussi préciser que ce qui est glaçant, c'est de voir des autobus de noirs, des noirs parqués par dizaines dans des conditions insalubres. Ça rappelle des drôles de souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai pas été du tout surpris d'apprendre, les associations le savent, de ce qui se passe sur ce commerce d'esclaves. Je voudrais aussi finir pour raconter, préciser qu'on a de nombreux témoignages de soutien, de contrôleurs, d'agents de la SNCF, mais aussi de policiers qui cachent. Alors, ce n'est pas eux qui nous le racontent, c'est les migrants qui ont été sauvés, qui ont été cachés par des policiers ou par des militaires. Parce que face à ces situations de terrain inhumaines, eh ben, il y en a qui n'ont pas d'autre choix hein, que de respecter la dignité et l'humanité. Donc voilà ce à quoi on se retrouve confronté à la frontière.
Merci Pierre-Alain. Cédric.
Bonjour, donc je suis là pour représenter l'association Roya Citoyenne et l'association DTC, Défendant ta citoyenneté, qui s'est montée il y a un petit mois. La petite sœur de l'association Roya Citoyenne qui sera plus ciblée sur le côté juridique. Voilà. Dans la Roya, nous avons mis en place un camp humanitaire, donc chez moi, pour accueillir des gens et les aider à accéder à leurs droits, qui est demande d'asile et prise en charge des mineurs isolés. Donc c'est à 10 km de la frontière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des dispositifs de contrôle, en fait, qui est de police, qui prend ces migrants-là et qui les renvoie en Italie. Sur le terrain, qu'est-ce que nous on voit ? On voit en fait le fait que des migrants sont ramenés de 1 à 10 fois en Italie et que de toute façon les gens passent quand même. Voilà, le constat, il est là, c'est que les gens passent quand même. Notre volonté, nous, c'est que l'État en fait réagisse par rapport à une réalité de terrain. Donc je pense que l'État a un déni de réalité. Et on a envie de faire prendre conscience à l'État de tout ça. Donc je vais passer le côté humanitaire, les enfants qui souffrent, etc. On va parler d'un côté pragmatique. Pour ou contre les migrants, il y a un moment, il y a une problématique en Europe et il faut l'assumer. Et notre État crée un trouble d'ordre public manifeste et à long terme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que notre association est inquiète sur le fait, en fait, de ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 15 ans des personnes en situation irrégulière. Donc l'État sera responsable et responsable du trouble à l'ordre public actuel et sera responsable du trouble à l'ordre public qu'il y aura dans 10 ans, dans 15 ans. L'éducation ne sert pas juste à apprendre à écrire à un gamin ou une gamine. L'éducation, ça sert à insérer et intégrer des gens dans une société. C'est tout. Donc c'est pour ça que l'école est obligatoire. C'est pas un confort, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et donc nous, on va se battre, on commence à s'organiser sur un point de vue politique, on va garder le côté humanitaire parce que je pense qu'il faut avoir la réalité du terrain, continuer à être là sur le terrain. Et se battre et se défendre en travaillant le niveau politique et en étant témoin et en écrivant ce qui se passe dans la Vella Roya et en France et en Italie.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF, un réseau d'éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et donc, nous venons d'écouter Michel Rousseau, Cédric Héroux et Pierre-Alain Manoni, enregistrés à l'occasion de la conférence de presse pour une autre politique migratoire. En vue de lancer les états généraux de la migration. Et on va tout de suite retrouver avec Michel Rousseau qui nous donne quelques petites précisions sur ce qui se passe à Briançon dans les Hautes-Alpes.
On est confronté à une violence institutionnelle, à une violence de l'État qui s'ajoute à tous les drames qu'on subit, ces personnes qui frappent à notre porte. Et l'accueil, nous, on démontre, les citoyens, qu'on est capable d'accueillir et que non seulement on est capable de le faire, mais en plus ça nous enrichit. C'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour nos enfants. Par contre, voilà, on se heurte à un mur, c'est le mur de l'État, des institutions qui ne veulent pas de ces gens-là et qui leur fait savoir, et c'est absolument insupportable. Et sur notre territoire, donc le Briançonnais est devenu, de tout temps, des gens sont passés par chez nous. Qui fuyaient la guerre ou la misère, ou les deux à la fois, souvent. Et là, depuis cet hiver, les passages sont quotidiens et on a accueilli près de 2000 personnes à peu près. On a fait un comptage très précis depuis le 1er juillet, entre le 1er juillet et le 10 novembre, on a accueilli pratiquement 1700 personnes. Pour au moins une nuit. Ce qui se durcit depuis cet été, c'est la militarisation de la frontière. Et c'est donc une véritable chasse à l'homme que l'État organise, le préfet, le procureur, via la police, les gendarmes, l'armée. Il y a des dizaines de gendarmes et de militaires qui sont mobilisés à la frontière pour refouler en toute illégalité les migrants qui tentent de passer en France. Donc, dans le déni complet de leur droit à déposer une demande d'asile, dans le déni complet des droits des mineurs à obtenir la protection de l'État, puisqu'en fait, ils sont parvenus sur le sol français, et ils les renvoient en permanence. Souvent, il faut qu'ils tentent 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 7 fois le passage de la montagne, donc avec une fatigue aggravée. Et comme ils ont peur de se faire attraper par la police ou la gendarme ou les militaires, et bien quand ils les voient, tout ça se passe souvent en pleine nuit, avec le froid, il fait moins 10. Hein, bon. La montagne, c'est dangereux, il y a des ravins partout. Voilà. Et donc, il y a des risques d'accidents, et des accidents se sont déjà produits. Et voilà, et c'est absolument lamentable. Un des problèmes, évidemment, le problème, c'est toujours les gens les plus vulnérables. Donc, les femmes, les enfants, bien sûr. Et pour eux, il faut bien voir que ces mineurs isolés, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Hein. C'est souvent des orphelins, c'est des enfants qui n'avaient le choix que de la rue et de tous les trafics possibles, imaginables qu'on peut imaginer dans les pays qu'ils fuient. Et bon, ils pensaient, d'ailleurs ils nous ont un peu tous ce même discours lorsqu'ils arrivent chez nous, ils espèrent la paix et aller à l'école. Bon, voilà, voilà, c'est des enfants qui n'avaient pas possibilité d'accéder à l'école et pour qui la paix, c'était pas la paix, c'était la guerre. Si la guerre n'était pas dans le quartier, elle était au moins dans les familles. Ils sont souvent complètement... on a du mal à imaginer ce qui se passe au niveau des configurations familiales dans des pays pauvres comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, par exemple. Bon, ils trouvent heureusement le soutien des citoyens, mais ça fait, par exemple, on a reçu plus de 900 mineurs depuis le début de l'été, et pour l'instant pratiquement aucun n'a pu être scolarisé. C'est quand même donc ils sont là, ils errent, soit ils sont dans des, même s'ils sont à l'abri dans des familles ou mis à l'abri par l'État ou le conseil départemental dans des villages de vacances, ils tournent en rond, ils n'ont aucune occupation, on leur propose rien. Il n'y a que par le biais des bénévoles qu'il y a une certaine prise en charge éducative, mais c'est quand même assez dérisoire par rapport à ce qu'ils attendent. C'est pas vraiment l'école, par exemple. Ils veulent aller à l'école. Ils ont une motivation incroyable.
Et votre proposition, ça serait quoi? Parce que si j'ai bien compris, ici, quand même, l'idée, c'est de faire des propositions alternatives. Alors, c'est quoi?
Oui. Bah, concernant les mineurs, ce serait déjà qu'on applique le droit. On est quand même dans une situation tout à fait particulière. Moi, j'ai 64 ans. Pendant longtemps, le mouvement social, il se battait pour des droits nouveaux. Là, depuis 10 ans, on se bat pour que les droits actuels soient appliqués. Là, ce dont on parle, c'est d'un État hors la loi. C'est nous, les citoyens, qui sommes dans la loi, qui respectons, enfin, qui tentons de faire appliquer les droits fondamentaux. L'État actuel bafoue les droits fondamentaux, tant des mineurs que des demandeurs d'asile. Hein, et plus généralement, des humains, puisque au-delà de ces catégories, voilà, tout le monde a droit à un tout. Enfin, on nous apprend dans les écoles, il y a liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On nous apprend les droits de l'homme. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, l'État français bafoue notre devise et il bafoue les droits, enfin notamment les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme. Il faut accueillir. Et il faut permettre aux gens d'aller à l'école, aux enfants d'aller à l'école. Quand les gens ont besoin de se soigner, eh bien, il faut qu'ils puissent accéder aux soins. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment à Briançon. Mais là, on le fait qu'avec les moyens du bord. Il faut que ce soit toute la société qui accepte de jouer le jeu. Nous, les citoyens, on fait ce qu'on peut. Mais on ne peut pas, par exemple, pour donner l'exemple de l'école, aujourd'hui, l'éducation nationale, alors qu'elle est censée accueillir tout le monde, peu importe les papiers des gens, eh bien, elle refuse d'accueillir les jeunes tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge par le conseil départemental, qui lui freine des cas de fer, qui déminorise à tour de bras. Déminoriser, ça veut dire considérer qu'une personne qui s'est déclarée mineure est en fait majeure. Il faut lire les rapports d'évaluation sur lesquels se basent les départements pour déclarer une personne, pour la déclarer majeure. C'est hallucinant, c'est des conneries, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc c'est grave que des fonctionnaires se plient à ce genre, ou des salariés des conseils départementaux, se plient à ce genre de simulacre d'évaluation. Ah bon, je ne dis pas que toutes ces évaluations sont mal faites, hein, certaines sont bien faites, heureusement, mais beaucoup, en tout cas celles qui conduisent à la déminorisation, la plupart du temps, c'est ni fait ni à faire, c'est complètement farfelu. Donc il y a vraiment un détournement des procédures. Tout est fait pour mettre obstacle à l'accès aux droits de ces personnes qui frappent à nos portes.
Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et nous allons maintenant retrouver Alexia Père. Alexia Père qui est psychologue, syndicaliste et qui travaille à la protection judiciaire de la jeunesse.